Inter, Cédric Decoeur.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
L'arrivée provisoire pour l'instant du Quintet Plus à Vincennes, 14, 12, 15, 6 et 8. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire. Patrice Gélinet, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, la dernière impératrice de Russie, Alexandra Fedorovna. On ne peut pas régner innocemment. C'est injuste. Ans d'histoire. Quand elle s'est mariée avec Nicolas II le 24 avril 1894, pour le meilleur et pour le pire, Alexandra Fedorovna n'imaginait pas encore qu'elle ne connaîtrait que le pire. Depuis son arrivée à Saint-Pétersbourg jusqu'à son exécution en Sibérie pendant la révolution de 1917, sa vie n'a été qu'une succession d'épreuves. Le destin de celle qui fut la dernière impératrice de Russie ressemble un peu à celui de Marie-Antoinette. Étrangère comme elle dans le pays dont elle était devenue la souveraine, cette princesse protestante d'origine allemande avait tout fait pourtant pour se faire aimer de ses sujets. Pour eux, elle avait quitté définitivement son pays et renoncé à son nom et à sa religion. Mais l'hostilité de sa belle famille et de la cour, sa confiance aveugle en Rasputin, l'influence désastreuse qu'elle exerçait sur son mari au moment où le régime impérial était plus fragile que jamais, ont fait d'Alexandra Fedorovna une des femmes les plus impopulaires de l'histoire de la Russie.
Et puis si pour elle même que notre impératrice bien-aimée, Alexandra Fedorovna, se laissait abuser par ce prêtre illuminé qui a tant d'influence, n'avons-nous pas, nous, en tant que Russes, le devoir et l'obligation d'implorer notre souverain afin qu'il écarte définitivement la tsarine du pouvoir avant qu'elle ne conduise à leur perte l'empereur, sa dynastie et la Russie des Tsars?
Vladimir Fedorovski, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans votre dernier livre, le roman de la Russie insolite, vous consacrez tout un chapitre à celle qui fut en fait la dernière impératrice de
Russie. C'est le symbole de la Russie insolite, presque.
Voilà. Insolite comme elle l'était elle, Alexandra Fedorovna, donc épouse de Nicolas II, et qui était, on vient de l'entendre dans cet extrait de film, extrêmement impopulaire, aussi bien d'ailleurs à la cour que dans le peuple russe, et impopulaire avant tout parce qu'elle était étrangère, elle était allemande. D'origine.
Oui, le mot populaire, c'est le mot qu'il faut utiliser pour la décrire. Il y a une autre égérie bien présente dans la Russie insolite, Raïssa Gorbatchev, oui, qui était aussi impopulaire qu'elle. Dans la Russie insolite, je réhabilite en réalité cette dernière tsarine, mais c'est vrai que son destin était un destin à part. Mais c'est un exemple de l'intégration totale dans l'ambiance russe.
Alors, cela dit, elle était étrangère parce qu'elle était allemande avant de s'appeler Alexandra et d'épouser donc Nicolas II, le dernier empereur de la dynastie des Romanov. Elle s'appelait Alix ou Alice de Hesse Darmstadt. Elle était allemande, donc. Elle venait de là-bas. Et alors, c'est un petit duché, un grand duché, pardon, en Allemagne, actuellement un land allemand. Elle était d'une très grande famille. Je crois qu'elle était la petite fille de la reine Victoria d'Angleterre.
Bien sûr. Elle était la petite fille de la reine d'Angleterre, mais quand même, c'est pas un grand mariage qui se profilait à l'horizon. Elle vient presque par hasard, comme ça, vous savez, il y a les festivités, un autre mariage princier, et puis il y a un coup de foudre. Un coup de foudre tout à fait inhabituel pour l'époque. C'est pour ça que je dis, il faut rétablir la vérité. On dit que elle était impopulaire, que toute sa vie était un échec, mais sa vie était une réussite personnelle totale. Elle a imposé l'amour dans ce milieu très figé des cours impériaux à l'époque. Et il faut dire que l'amour a triomphé, puisque beaucoup de gens ont été réticents face à la perspective de ce mariage avec le futur tsar de la Russie. Et l'amour a triomphé avec le soutien de la reine Victoria, il faut le dire.
Amour partagé, hein, parce que Nicolas II aussi adorait sa femme, alors qu'il avait eu quelques maîtresses avant de se marier en 1894.
Ça arrive aux autres.
Et ils se sont aimés jusqu'au bout, Nicolas et Alexandra. Et elle aimait aussi à travers lui, elle a essayé en tout cas de s'intégrer à son nouveau pays, à la Russie, dont je ne sais pas si elle parlait la langue en arrivant, mais elle est devenue orthodoxe. Hein. C'était pas évident, c'était une protestante attachée à sa religion, elle devient orthodoxe, elle russifie son nom, hein. Alice de Hesse-Darmstadt devient donc Alexandra Fedorovna, impératrice de Russie. Elle fait tout, elle est en quête de Russie. D'ailleurs, c'est le sous-titre du chapitre que vous lui consacrez.
Oui, la quête de la Russie, et ça c'est aussi un personnage à part. Elle adopte toute l'histoire d'un coup. Vous savez, l'histoire longue de la Russie, c'est le Folin Christ, c'est les personnages souvent très particuliers, les vieux sages qui peuvent devenir les empereurs peuvent devenir les ermites. Elle comprend que la civilisation russe, c'est un mélange des vieilles croyances, de chamanisme et de l'orthodoxie, et elle adopte tout ça, et là aussi c'est une réussite, parce que c'est une clé pour comprendre la Russie, d'ailleurs d'hier comme d'aujourd'hui. Et alors, sur ce plan-là, elle est assez étonnante, parce que beaucoup de gens ont été figés dans les préalables. Elle entre dans la Russie, et comme Raïssa, elle joue un rôle tout à fait majeur sur le plan politique.
Alors, leur mariage, son entrée en Russie, son mariage, ça commence quand même sous de mauvais augures. D'abord, au moment où elle arrive en Russie, son beau-père, Alexandre III, meurt. Donc, juste avant le mariage, il y a les obsèques. Il se marie pas en noir. Bon, certes, elle devient du même coup impératrice. Nicolas II n'est plus l'héritier du trône. Il devient empereur. Et puis, alors, mauvais présage aussi, quelques mois plus tard, il y a le couronnement. Et là, il y a un drame qui se produit à Moscou, lors du sacre de Nicolas et Alexandra, 1300 personnes sont tuées.
Oui, c'est vrai, c'est de mauvais augure, mais dès le début, elle veut surmonter la fatalité, vous comprenez ? Et elle participe pleinement comme une sorte de grande égérie politique du XXe siècle, déjà dans toutes les affaires de la Russie. Elle ne s'écrase pas comme souvent les tsarines ou les impératrices du XXe siècle. Le personnage a multiples facettes, et les historiens qui le représentent seulement comme Marie-Antoinette, ou même pire, comme une idiote, se trompent lourdement, parce qu'elle pousse déjà dès les premières...
Quand j'en ai parlé, Vladimir Fedorovski, c'est parce que il y a des analogies dans leur destin. C'est pas du tout qu'elles se ressemblaient l'une et l'autre, Marie-Antoinette et...
Moi, je vous chauffais l'analogie plus moderne. Je vous dis, je la compare volontiers avec Raïssa Gorbatchev.
Ah oui. Alors, il y a quand même, je l'ai dit, vous l'écrivez d'ailleurs, les drames du début, hein, ces morts à Moscou. Alors, les Russes voient ça d'un mauvais présage. Elle commence à ne pas être bien vue. On se dit, mais c'est sa faute, parce qu'ils sont très superstitieux quand ils l'ont, quand il y a 1300 morts dans une bousculade qui se produit le jour du couronnement. Et puis, elle est mal vue dans sa belle famille, sa belle-mère qui est très possessive. Maria Fedorovna, la mère de Nicolas II, ne l'apprécie pas beaucoup.
Et encore une fois, elle n'est pas seule.
Oui. Et alors, on va même jusqu'à lui reprocher le fait, parce que qu'est-ce qu'on attend d'elle ? C'est évidemment des enfants, pour qu'il y ait un tsar après Nicolas II. Les quatre premiers enfants sont des filles, pas d'héritiers, jusqu'à l'arrivée d'Alexis, hein, qui est le dernier. Il y a eu que des filles jusque-là, et même sa belle-mère disait, mais enfin quand même, on attend des garçons.
Bien sûr, il y a ce problème des filles qui vient tout d'abord, mais aussi il y a un problème de l'héritage, de l'héritage qu'elle porte, parce qu'il y a une sorte de grain, une sorte de pépin dans la famille. Mmh. Dans sa famille, les enfants sont souvent hémophiles. Et l'héritier de trône qui arrive, c'est un
Alexis,
enfant.
Donc Alexis, le cinquième enfant.
Il est hémophile.
Voilà.
Hémophile. Le drame, évidemment, ça bousille cette tsarine. Mais elle continue quand même à participer dans la vie publique, contre les habitudes, vous savez, un peu figées et misogynes. Dieu sait, c'était misogyne, la Russie d'autrefois. Dieu sait, souvent, le monde politique est misogyne aujourd'hui. Et elle s'impose. Et là, encore une chose. Vous comprenez? Elle pousse à l'époque, à la première ligne, tout en restant attaché à cette tradition russe, à l'idée de l'autocratie, quand même, les gens absolument inattendus. Peu de gens savent qu'elle a poussé à la première ligne les premiers ministres qu'on se que
on verra ça, oui. Fredowski, mais je voudrais qu'on revienne sur cette hémophilie d'abord.
Oui.
Vous le rappelez, c'est une maladie qui ne se transmet que par les femmes, mais qui ne touche que les hommes, et immédiatement, c'est quand même un bouleversement dans sa vie. Elle culpabilise au maximum. Elle se considère comme responsable de cette maladie très grave dont est atteint son fils, et d'ailleurs qui vient de son pays. Je crois même que ça s'appelait à l'époque le mal de Hesse. Hein.
Absolument, c'est la maladie qui était héréditaire par rapport à sa famille. Complexe de la culpabilisation reste présente en elle, mais c'est une femme foncièrement sincère. Il faut voir en elle non seulement cette facette hantise par rapport à ce qui est arrivé à son fils, mais aussi le désir de sauvegarder sa famille. Mmh. Elle comprend bien que le monde politique est impitoyable et le cours de tsar c'est encore plus impitoyable. Elle essaie de sauvegarder son foyer et évidemment elle est un peu comment vous dire, je dirais frustrée dans la réalité parce que sa belle famille ne l'accepte pas du tout et la Russie ne le comprenne pas.
Mmh. Et elle se replie un peu sur elle-même, elle devient neurasthénique, se dit il y a de quoi avec la maladie de son fils, cet isolement dans lequel elle se trouve, jusqu'à l'arrivée à Saint-Pétersbourg d'un moine inconnu et qui prétend pouvoir guérir son fils.
Qui es-tu donc? Grigori Rasputin, je viens de Pokrovskoye en Sibérie.
Votre Majesté, c'est le père Grigori, il arrive de Sibérie. Il vient bénir Alexis.
Petite mère. N'ayez pas peur. Le Christ est avec vous. Ne pleurez plus. La souffrance passe. Tout passe. Pourquoi votre cœur est-il si lourd? Avez-vous la foi? Il n'y a pas de raison de souffrir. Le Seigneur bénit sa bonne et fidèle servante Alexandra Fedor.
Bien sûr, France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, la dernière impératrice de Russie, Alexandra Fedorovna, qui donc accueille à la cour impériale Vladimir Fedorovski, qui accueille Rasputin. Alors avant de parler de Rasputin, je voudrais qu'on évoque quand même une chose que j'ignorais totalement, je l'ai appris en vous lisant, le fait qu'elle était quand même, elle avait un certain mysticisme, cette femme, elle croyait un petit peu en des charlatans, etc. Et il y avait déjà dans son entourage quelqu'un qui ressemblait un peu à Rasputin, qui était d'ailleurs français, il s'appelait Philippe, c'est ça?
Absolument, il y a un autre guérisseur qui a précédé Rasputin, qui est venu dans la cour impériale, qui a soigné un tout petit peu Tsarevitch. Elle a cherché Rasputin, et c'est vrai que les personnages de type Rasputin ont existé à travers toute l'histoire de la Russie. J'évoque ça à partir d'Ivan le Terrible dans le roman de la Russie insolite, mais vous savez qu'ils existent aujourd'hui, puisqu'il y a tout un département des services secrets qui s'occupe toujours
de
ces gens-là et qui répertorient. C'est pour ça que la Russie insolite est transversale. Mais pour revenir à Rasputin, je dois vous dire avec beaucoup de gravité que je suis tout à fait persuadé que non seulement l'image de la tsarine, la dernière tsarine, a été souvent une désinformation historique, mais aussi l'image de Rasputin, une grande désinformation historique. Revenons aux choses politiques. Politiquement, tous les deux, si on permettait, ils ont été tout à fait positif pour l'histoire de la Russie. Ils ont poussé à la première ligne des plus grands réformateurs de la Russie, notamment un premier ministre Stolypine, unanimement considéré aujourd'hui comme le personnage le plus intéressant du XXe siècle, en Russie du moins. Et puis, sur le plan, je dirais, tout à fait humain, Rasputin n'a tué personne. Moi, j'ai feuilleté l'autre jour son journal. Il a soigné plein de gens, non seulement Tsarevitch, il savait.
Oui, parce que il faut rappeler une chose, d'ailleurs Fedorovski, tout le monde ne le sait pas nécessairement, si la tsarine accueille ce moine qui ressemble vraiment à un clochard quand il arrive, qui est très fascinant hein, comme personnage, c'est parce que son arrivée à la cour correspond à une amélioration de l'état de santé de son fils. C'est pour ça qu'elle le défend contre vents et marées et contre tous les ragots qui tournent autour de Rasputin et qui étaient fondés quand même pour beaucoup d'entre eux. C'était quand même un type pas assez débauché quand même. Et ça lisait beaucoup au prestige de famille impériale.
Deux remarques à propos propos de ça, je vous signale tout d'abord qu'il a eu des dons tout à fait extraordinaires de guérisseurs, je le soignais plein de pauvres, qui est une grande tradition chamanique de la Russie. Il faut comprendre que la Russie, c'est une quand même un mélange de la civilisation. Et deuxième chose, n'oublions pas que Rasputin représentait pour elle un symbole de la Russie internelle. J'aurais aimé de la présenter comme un vieux sage, vous savez, celui qui est si bien décrit par Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. Je vous signale que ces personnages, encore une fois, ils ont existé avant, c'était personnifié par Rasputin, mais ils ont existé jusqu'à la fin de XXe siècle, et notamment maintenant, parce qu'il y a toujours dans l'entourage de gouvernants russes un Rasputin, une permanence. Et quatrième élément que j'introduis, Rasputin, avec son bon sens, il a posé des questions directes et il a donné des réponses directes, notamment sur l'avenir de la Russie et sa participation éventuelle dans les guerres. Mmh. Il disait, s'il y a les guerres, ça va inévitablement provoquer la révolution, sans parler des choses plus farfelues. Je retrouvais dans son journal, oui, et c'est un Nostradamus russe, les gens disent, parce que il a décrit à une journée près non seulement l'arrivée des bolcheviks, mais même quelque chose qui ressemble dans son journal de Tchernobyl, une journée près aussi.
Ce qui prouve, Vladimir Fedorovski, qu'au fond, il n'exerçait ni lui, ni elle, ni la tsarine, ni d'influence importante sur son mari, puisque justement, la guerre que redoutait Rasputin va se produire. Cela dit, quand même, vous le dites d'ailleurs dans votre livre, cette femme dont nous parlons, l'impératrice de Russie,
la tsarine,
était très conservatrice. Elle était attachée à la Russie, mais surtout à une Russie autocratique, à un pouvoir arbitraire comme celui qu'exerçait son mari Nicolas II et tous ses prédécesseurs.
C'est très difficile à le dire. Je pense que les vrais responsables de l'évolution de la Russie, c'est justement les gens qui ont tué Rasputin, c'est les intrigues de la cour impériale, la partie de la guerre qui a remplacé les poches avec la participation de la Russie dans la guerre, tandis que eux, ils poussaient en première ligne, je vous dis, les premiers ministres qui n'ont pas été si mauvais. Leur influence politique, je conteste formellement qu'il était tellement négatif. Et finalement, une autre chose, soyons très clairs, que Rasputin a été tué, tandis que ses adversaires, bien plus tard, ont tué plein de gens, 25 millions de morts dus à l'arrivée du régime totalitaire en Russie, dit mon ami Alexandre Yakovlev.
En tout cas, cette influence politique va devenir considérable, justement, au moment où se déclenche la Première Guerre mondiale, quand la Russie est en guerre, entre en guerre contre le pays d'origine d'Alexandra Fedorovna, de l'impératrice, quand son mari part sur le front. Elle nomme elle-même, Alexandra, les ministres sur les conseils de Rasputin, et même elle conseille son mari dans la conduite de la guerre.
Nous pourrions aller vers le nord, jusqu'à Riga, mais nous sommes en hiver déjà, et ce seul fait devrait permettre de stopper l'avancée ennemie.
Le sud est vulnérable, la Galicie l'est particulièrement.
Quel est le meilleur choix, nord ou sud? Vers?
Le nord.
Le père Grigori demande que tu ordonnes d'avancer en direction de Riga.
Je l'ai vu en songe, la nuit dernière.
Ce message lui fut inspiré par un songe qu'il fit la nuit dernière.
Alors Alexandra et Rasputin conduisant la guerre de Saint-Pétersbourg où il se trouve alors que le tsar est sur le front, c'est vrai ça?
C'est vrai, mais je voudrais vous dire encore une fois, vous comprenez, on la présente comme une simple idiote, quelque chose comme ça, tandis que tout le monde sait, Mitterrand a eu son astrologue, Eltsine a pris la décision de la guerre en Tchétchénie, aujourd'hui sous l'influence de l'astrologue, sans parler de Reagan et j'en passe, c'est les meilleurs. Pour revenir à ça, c'est vraiment ne pas conforme à la réalité historique. Cette présentation de cette dame, je pense que aussi, c'était fait consciemment pour disculper après et pour diaboliser Rasputin et disculper les bolcheviks qui vont tuer sauvagement la famille impériale.
Puisqu'il participe à la conduite de la guerre, et comme la guerre tourne mal, immédiatement on l'accuse, elle, Alexandra, de faire le jeu de l'Allemagne sous prétexte qu'elle est d'origine allemande. Est-ce que c'était vrai, ça?
Absolument, c'est une grande manipulation qui a été montée pour essayer de l'évancer des affaires. On songe, sinon, de la tuer, ou du moins de la mettre, au monastère. C'est un vrai complot, et je le prouve dans la Russie insolite, qui a été déterminée par les choses, par la partie de la guerre, les gens qui ont voulu que la guerre continue, et surtout qui ne voulaient pas que la proposition de bon sens, d'ailleurs, de Rasputin, amène à la sortie de la Russie, de la Première Guerre mondiale.
Rasputin, qui est donc assassiné le 29 décembre 1916, alors là, évidemment, elle est effondrée. C'était l'homme qui, croyait-elle, sauvait son fils, et puis il disparaît. Je crois qu'elle allait sur sa tombe tous les jours qui ont suivi l'enterrement de Rasputin, jusqu'à la révolution, la première révolution, celle de février 1917, Vladimir Fedorovski. Et là, donc, se met en place un gouvernement provisoire. Le tsar abdique, et avec sa famille, avec Alexandra, avec leurs enfants, ils sont en quelque sorte en résidence surveillée dans leur palais de Tsarskoïe Selo, près de Saint-Pétersbourg, qui s'appelait Petrograd d'ailleurs à l'époque. Cela dit, le régime qui se met en place, bon, c'est fini, il n'y a plus d'empire russe, mais le régime qui se met en place ne cherche pas, n'est pas trop, comment dirais-je, cruel vis-à-vis de la famille impériale.
Bien sûr, parce que le premier chef de gouvernement donne sa parole personnelle. Il jure sur l'honneur qu'il va simplement exiler la famille impériale. Il va donner la possibilité d'ailleurs au tsar, à la dernière tsarine, d'aller en Angleterre. Et l'Angleterre se désiste à l'époque d'ailleurs. C'est bien dommage.
C'est curieux parce que c'est la famille d'Alexandra.
Vous comprenez, c'est les familles proches. Ils portent quand même une sacrée responsabilité face à cela. Cela dit, vous comprenez, je raconte dans la Russie insolite Raïssa Gorbatchev au moment de la fin du communisme. Je dois vous dire, il y a un parallèle tout à fait étonnant entre l'attitude de Nicolas II et de Gorbatchev. Tous les deux veulent éviter l'effusion du sang. Vous comprenez? Et je suis tout à fait certain que si tous les deux agissaient autrement, ça aurait pu provoquer les fleuves de sang, sinon l'apocalypse mondiale dans le cas de Gorbatchev, avec 10 000 têtes nucléaires. Vous comprenez? C'est une responsabilité quand même assez étonnante qu'ils ont pris, et ils ont assuré ça avec vraiment beaucoup d'audace. Et ça, c'est pas assez dit, parce qu'il dit, le tsar se dégonfle. Il se dégonfle pourquoi? Parce qu'il veut éviter l'effusion de sang.
Alors, il se retrouve donc d'abord en résidence surveillée à Tsarskoïe Selo, puis comme ils ne peuvent pas partir en Angleterre parce que l'Angleterre ne le veut pas, nous sommes toujours en guerre, hein, il faut le rappeler. À ce moment-là, on les envoie en Sibérie, à Tobolsk, où là encore, il y a un régime qui n'est pas trop sévère. Et lorsque la révolution d'octobre se produit, avec l'arrivée au pouvoir de Lénine et des bolcheviks, là en revanche, on les envoie dans une autre ville, parce que il y a la Russie blanche, les Russes blancs qui cherchent à renverser les bolcheviks, qui progressent vers la ville de Tobolsk. On les envoie à Ekaterinenburg, et c'est là que dans la nuit du 16 au 17 juillet, toute la famille impériale de 1918, toute la famille impériale est fusillée. Donc le 17 juillet 1918 à 3h du matin.
Vous allez vous aligner, on va vous prendre en photo. Pourquoi ? Il y a des rumeurs à Moscou. Comme quoi vous seriez tous morts. Avancez.
Est-ce qu'on pourrait avoir au moins des chaises ?
Des chaises ? Pour crime contre la Russie, le soviet de l'Oural vous a condamné à mort. Vous allez être exécuté.
Quoi ?
C'était donc l'exécution de toute la famille impériale dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, la fin des Romanov. En fait, on a mis des années, Vladimir Fedorovski, à savoir ce qui s'est passé. Dans un premier temps, le régime bolchevique n'a rien dit, puis ensuite
non,
il a dit...
Non, mais c'est bien plus grave, on a répondu des contre-vérités, on dit toujours, même dans cette séquence, on dit ce soviet de l'Oural, il y a les preuves irréfutables que c'était Lénine qui a pris personnellement la décision, d'ailleurs Trotsky le confirmait, de tuer la famille impériale. N'oublions pas qu'ils ont tué tout d'abord les enfants. Et après, les enfants ont été morts devant les yeux de cette femme qui a eu toutes les souffrances possibles. Et c'est pour cette raison qu'il faut essayer de rétablir la vérité. Je suis toutes les égéries du XXe siècle dans les Russies insolites. Je pense que c'est une grande égérie. Que si elle continuait quand même à exercer les affaires, on aurait pu éviter, ou du moins, cette tragédie. Je suis absolument certain que ce désir de repentir des Russes est lié avec le fait qu'elle était enterrée solennellement avec ses enfants, avec l'empereur de toute la Russie, 80 ans après,
à Saint-Pétersbourg. Mais ce que je veux dire, c'est que, d'abord, en Russie, le gouvernement bolchevique a dit que le tsar avait été tué, mais que la famille impériale avait été mise en lieu sûr, d'où ensuite l'histoire d'Anastasia, qui a fait croire qu'elle avait pu en échapper, la quatrième fille de la couple impériale.
Bon,
mais en réalité, on a découvert très tard le corps, je crois que c'est à la fin des années 70, les corps. On a ensuite pu établir qu'il s'agissait bien de la famille Romanov.
Ils sont donc
enterrés à Saint-Pétersbourg depuis 1998, je crois. Qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui en Russie de cette famille impériale et surtout d'Alexandra, de cette impératrice qui était quand même, vous le dites vous-même, très impopulaire, en tout cas à la fin de sa vie.
Elle est très impopulaire, mais comme dans le cas de Raïssa Gorbatchev, la vérité s'éclate petit à petit. Elle est considérée aujourd'hui vraiment comme une grande égérie du XXe siècle. C'est pour ça, d'ailleurs, j'évoque ça dans la Russie insolite. Et je suis aussi certain que ce désir de rétablir les vérités historiques, de repentir, c'est quelque chose de tout à fait sain. Et disons, le rétablissement de la vérité à propos de Nicolas la dernière tsarine fait partir de ce désir de repentir des Russes. Et Dieu sait qu'ils ont besoin, parce que le régime quand même a produit beaucoup de morts et beaucoup de victimes avec la terreur due au régime totalitaire.
Merci Vladimir Fedorovski. Je rappelle donc, vous l'avez vous-même d'ailleurs beaucoup dans cette émission, le titre de votre livre, le roman de la Russie insolite, qui a été publié aux éditions du Rocher. À lire également une des rares biographies d'Alexandra Fedorovna, La Tsarine Martyre, de Laurence Katino-Cross, publiée chez Atlantica.
Et après, le roman de Saint-Pétersbourg, évidemment, un roman de Kremlin.
Vous avez pu entendre des extraits de Rasputin, un téléfilm anglais réalisé par Rudy Edel. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs au 3230, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Alain Arnstrand, Jean-Philippe Jeanne, Claire Destacan, Claire Tesser et Cédric-Joseph Julien. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un sujet dont il est beaucoup question en ce moment...